Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. L'émission Le Nombril de Vénus aujourd'hui, c'est un cadeau de fin d'année avec cette interview d'Eric Reinhardt. Je ne vous cache pas que c'est un de mes écrivains préférés. Il était en lice cette année 2023 pour le prix Goncourt avec son roman éblouissant Sarah, Suzanne et l'écrivain, paru aux éditions Gallimard. Alors, le livre raconte l'histoire d'une femme qui s'appelle Sarah, en pleine conversation avec l'écrivain qu'elle admire et dont elle demande qu'il écrive un roman inspiré de sa vie. L'écrivain accompagne les précisions de la vie de Sarah, données par Sarah, qui a traversé d'ailleurs une période chaotique dans son existence jusqu'à une magnifique émancipation. Et puis, l'écrivain va en détaillant le vécu parallèle de Suzanne, son personnage de fiction du livre qu'il va écrire, inspiré de l'histoire de Sarah. Alors franchement, c'est absolument formidable. Et donc, ce qui est formidable aussi, c'est d'entendre aujourd'hui Eric Reinhardt dans cette interview pour Canal B. Bonjour Eric Reinhardt.
Bonjour.
Je suis vraiment très heureuse de faire cette interview avec vous. Vous allez tout à l'heure rencontrer le public rennais. Mais là, donc, j'ai la possibilité de vous interviewer maintenant sur votre livre Sarah, Suzanne et l'écrivain, un roman qui est paru aux éditions Gallimard. Dans la plupart de vos romans, votre talent remarquable d'être, de rentrer dans la peau, dans l'esprit des femmes, d'où est-ce que ça vient ce talent ?
Ah mais ça je ne sais pas, je suis le moins bien placé pour répondre à cette question. Non, c'est ma sensibilité. Lorsque je me mets à la place d'une femme dans un roman, c'est-à-dire lorsque la narratrice est une femme, je ne me pose jamais la question de savoir comment une femme réagirait ou ferait dans la vie. Qu'est-ce qu'elle dirait en pareille circonstance, puisque je suis un homme et que je pourrais me poser cette question ? Pas du tout. En réalité, quand je décide d'écrire un roman dont le personnage principal sera une femme et que je serai vraiment dans l'incarnation, au plus près du corps, des sensations, des pensées, des émotions de ce personnage féminin, afin d'entraîner mon lecteur le plus profondément possible dans la situation, le temps présent, etc. Il y a une identification qui se fait et de laquelle résulte une écriture complètement instinctive qui vient de moi-même, du plus profond de mon être, du corps. Et ça advient de cette façon-là. Et donc, vous lisez ce livre, ces livres, en vous disant « Mais comment fait-il ?» alors qu'il est un homme pour se mettre aussi bien à la place des femmes. Et en réalité, ça vient comme ça, parce que j'écris en puisant au plus profond de moi-même. Et si je décide de consacrer un roman à une femme, c'est que je m'identifie à elle, c'est que je me dis que d'une certaine façon, j'aurais pu être cette femme, j'aurais pu me retrouver dans la même situation, j'aurais pu entreprendre les mêmes choses. Et il se trouve que L'amour et les forêts et Sarah, Suzanne et l'écrivain sont des livres que j'ai écrits à partir de témoignages qui m'ont été faits. Et quand j'ai pris connaissance de ces témoignages, soit à l'oral, soit par écrit, je suis instantanément devenu ces femmes. Je suis devenu ces femmes au moment où elles me racontaient leur histoire. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ces livres. Quelque chose d'impérieux est advenu en moi. Et étant devenu ces femmes, eh bien, j'écris de la façon la plus naturelle.
Vous me faites penser, alors je ne sais pas si vous connaissez bien sûr, mais on a un musicien magnifique, un chanteur brésilien qui s'appelle Chico Buarque, qui a ce talent également quand il écrit ses chansons, il se met vraiment dans la peau des femmes. Donc voilà, c'était juste un clin d'œil.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.
Amor daquela vez,
como se fosse o último.
Beijou sua mulher
como se fosse a única.
E cada filho seu
como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. No chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina.
Beijou sua mulher como se fosse lógico.
Perdeu no patamar quatro paredes plásticas.
Certo pra descansar como se fosse um pássaro.
E flutuou no ar como se fosse um príncipe.
E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir.
deixar respirar, por me deixar existir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair.
Dans ce roman, il y a vraiment ce trio entre Sarah, l'écrivain, puis Suzanne, qui est le personnage du roman qui va être écrit. Votre livre dévoile donc une approche du processus de création. Jusqu'où il est aussi précisément proche du vôtre dans la place de l'écrivain?
Alors, en effet, ce n'était pas l'intention initiale, c'est-à-dire l'intention que j'avais en optant pour ce dispositif narratif singulier. N'était pas de montrer comment on écrit un roman, ni pour montrer les arcanes de la création. Mais ce faisant, j'ai assez vite compris et réalisé que ce serait une façon d'introduire mon lecteur dans l'atelier de l'écrivain et de lui montrer de quelle façon pouvait s'élaborer une œuvre de fiction. Dans la mesure où l'écrivain raconte à Sarah le livre qu'il s'apprête à écrire, inspiré de sa vie, et il lui raconte le livre avant de l'écrire. Le personnage de fiction de ce roman qu'il va écrire s'appelle Suzanne et les dérivés de Sarah. Le lecteur voit constamment l'écart, j'allais dire visuellement, mais enfin c'est comme un indicateur, comme s'il y avait un manomètre avec une aiguille. Avec le personnage de Sarah et celui de Suzanne, le lecteur mesure constamment l'écart qu'il y a entre la réalité et la fiction. Parfois, elles se superposent scrupuleusement et Sarah et Suzanne sont en transparence l'une de l'autre, vivent rigoureusement la même chose en deux endroits différents, en étant sensiblement différentes. Ni tout à fait différentes, ni tout à fait les mêmes. Mais parfois, l'écrivain fait intervenir des variations. Et bien donc, on voit la trajectoire de Suzanne s'écarte de celle de Sarah. On voit aussi de quelle façon l'écrivain enrichit ce que Sarah lui a raconté à partir de son imaginaire. Et on voit aussi de quelle façon un écrivain peut exploiter des épisodes de sa vie, donc vraiment un matériau autobiographique, comment il peut l'exploiter dans un roman et de surcroît dans un personnage féminin alors qu'il est un homme. On voit dans le livre qu'il y a un épisode de ma lointaine jeunesse à Venise, fondateur pour moi, extrêmement important, que je raconte à la demande de Sarah. Et en réalité, dans le livre que l'écrivain s'apprête à écrire, c'est Suzanne qui vivra ça.
Dans beaucoup des livres actuels, le phénomène de transfuge apparaît. Alors que le vôtre, c'est un peu le contre-pied. Là, on va suivre vraiment une dégringolade de classe. Mais cela ne va pas se terminer comme ça, puisque c'est aussi un livre qui parle de la libération, qui parle d'une émancipation, d'une condition. La condition de Sarah, et puis, par effet de ricochet, la condition de Suzanne. Qu'est-ce que cela raconte aussi de notre monde actuel? Est-ce que c'est justement de montrer que les personnes aujourd'hui peuvent s'emparer d'une existence, sortir des carcans, aller de l'avant? C'est un livre d'espoir?
Ah oui, c'est tout à fait. C'est un livre d'espoir. C'était très important pour moi. En réalité, le livre raconte l'histoire d'une femme qui cherche à être à sa juste place, qui comprend que la place qu'elle occupe depuis 21 ans, n'est plus de nature à la satisfaire et à assouvir ses désirs les plus profonds. Et donc, elle a le courage de s'en arracher de cette place. Elle s'en arrache et elle en cherche une autre. Le roman, alors, elle en cherche une autre, bien évidemment, en traversant une période extrêmement douloureuse et difficile, parce que ça ne va pas sans... D'une certaine façon, on peut dire qu'elle déclenche une catastrophe en décidant de s'arracher de cette place. Et cette catastrophe, c'est la façon pour elle, justement, de sortir de cette condition et de cette place qui n'est plus la sienne. Je pense que parfois, il est nécessaire de savoir déclencher des catastrophes qui sont des catastrophes salvatrices, des catastrophes par lesquelles on se sauve de situations dans lesquelles on est prisonnier. En l'occurrence, là, c'est complètement caoutchouteux et élastique, ce foyer dans lequel elle est, sans problème apparent. Rien ne se passe. Son mari ne refuse d'évoluer, enfin n'évolue pas tout en acceptant d'évoluer. C'est vraiment la pire des, enfin pas la pire des situations, mais c'est une situation très comme ça. Oui, c'est pas honnête et surtout elle n'a aucune prise. Donc à un moment, elle voudrait que cette situation dans laquelle elle est évolue, elle n'évolue pas. Elle décide d'administrer un électrochoc à son mari qui ne fonctionne pas. Mais de fait, elle a pris la décision. Je pense que son inconscient savait qu'elle ne reviendrait pas. Et donc, elle entreprend là un chemin qui la conduira à une place plus juste pour elle. Et à la fin du roman, on voit que Sarah s'est transplantée et que s'étant transplantée, elle refleurit. Et que d'une certaine façon, heureusement qu'elle a eu le courage de partir, même si ça a été douloureux.
Il y a un objet dans ce livre qui n'est pas vraiment un objet, c'est quasiment un personnage, c'est une très belle peinture. Et d'ailleurs, l'art est régulièrement présent dans vos livres, et dans celui-ci en particulier. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, si je vous dis que ce tableau est un personnage du livre ?
Ah oui, c'est vraiment un personnage du livre. C'est un rouage narratif extrêmement important, que j'ai complètement imaginé, inventé, c'est-à-dire qu'il ne me vient pas de l'histoire de la vraie Sarah, donc il appartient à l'histoire de Suzanne, mon personnage de fiction. C'est un tableau dont je suis dans la réalité tombé amoureux, et j'en suis tellement tombé amoureux, j'hésitais à l'acheter, mais il était un peu cher, et puis finalement il s'est invité dans la rêverie que j'avais de ce roman, peut-être même que il s'est invité dans la rêverie que j'avais de ce roman pour m'amener à l'acheter, puisque de fait, à un moment, constatant la place que ce tableau allait prendre dans le roman que je m'apprêtais à écrire, je me suis dit qu'il serait vraiment dommage de ne pas l'acheter et qu'il finisse sur les murs de quelqu'un d'autre. Et donc j'ai acheté ce tableau dont j'étais convaincu qu'il avait quelque chose à me dire, il me fascinait, je sentais qu'il recelait une énigme. Et c'est ce que sent également Suzanne dans le roman. Elle a la conviction, puisque Suzanne, après une maladie très grave, a abandonné son métier de généalogiste pour se consacrer à la beauté et, en l'occurrence, écrire des romans non publiés. Enfin, ce sont des manuscrits qu'elle envoie par la poste à des éditeurs. Et elle a la conviction que de ce tableau, elle sortira un roman, à condition de comprendre ce que ce tableau a à lui dire. Et donc elle passe les deux tiers du roman à scruter ce tableau profondément pour comprendre ce qu'il a à lui dire afin de pouvoir écrire un livre. Mais moi, j'ai fait vraiment le même chemin parallèle. Mmh. C'est-à-dire que toutes ces hypothèses formulées par Suzanne, je me les suis moi-même formulées chez moi en regardant ce tableau accroché sur un mur de ma chambre, jusqu'à ce que je découvre ce que cette porte, fameuse porte magrittienne, vibrante, et qui figure sur ce tableau, jusqu'à ce que je découvre ce qu'elle avait à me dire. Et ça, c'est ça qui me... Voilà. Bon, bref, je ne vais pas trop en dire. Mais c'était en effet... et il apparaît comme un motif dans mon livre, ce tableau. Mais à un moment, il devient actif. C'est un motif qui devient actif. Et c'est un motif qui, à un moment, devient une porte d'accès vers une autre dimension. Et dans le fond, c'est par ce tableau, enfin l'issue, le tableau représente l'issue qu'emprunte Suzanne pour sortir de cette catastrophe dont je parlais tout à l'heure et se libérer, s'affranchir et véritablement se déplacer.
Combien de temps vous avez mis pour écrire ce livre ?
L'écriture proprement dite, un an et deux mois. Mais j'ai beaucoup réfléchi à ce livre avant, je me suis pas mal documenté. Voilà, donc après, il y a, la gestation de ce livre a été très longue, puisque l'idée m'en est venue avant l'écriture de Comédie française. Et donc, c'est, voilà, pendant tout le temps que j'écrivais Comédie française, je pensais à ce livre. Mais je dois dire que c'est peut-être le livre que j'aurais écrit le plus rapidement de tous mes livres, des 9 livres que j'ai écrits. Et je pense que ça s'explique avec Existence, mais dans le fond, ils sont assez comparables. C'est-à-dire que le dispositif narratif, la forme que j'ai adoptée, était extrêmement ludique pour moi. Et donc, elle m'a procuré une grande allégresse qui fait que j'ai écrit ce livre assez vite, emporté par la joie que l'écriture de ce livre me procurait, en dépit du fait que ce que je raconte est difficile, puisque c'est une lente et longue descente aux enfers. Exception faite de la fin où il y a une libération de ces deux femmes.
Vous êtes sur Canal B, l'émission Le Nombril de Vénus avec l'écrivain Éric Reinhardt. Vous allez revenir à Rennes au mois de février dans le cadre du festival Jardin d'hiver avec une forme tout à fait délicieuse qu'on a envie de découvrir. C'est des lectures-concerts, donc des extraits de votre livre menés avec de la musique. D'où est-ce qu'est né ce projet ?
Alors en effet, c'est le dimanche 4 février. Au champ libre. Moi, j'adore lire mes livres, j'adore concevoir des lectures, et en particulier musicales. Donc, je l'ai fait il y a quelques années avec le groupe Feu Chatterton pour L'amour et les forêts. Je l'ai fait pour Comédie française avec Maud Jeffrey, qui est une DJ et musicienne électro géniale. Je l'ai fait avec une flûtiste. Classique s'appelle Marion Ralincourt pour La Chambre des Époux. J'ai même fait une lecture avec la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. Donc c'est vraiment quelque chose qui me... Avec Bertrand Belin également, deux fois. Et donc là, j'ai conçu cette lecture musicale qui est comme un petit spectacle. C'est un condensé du livre. Mais on peut vraiment... Il y a une narration, même ça dure une heure et quart, avec une comédienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Julia Faure. Et une très grande pianiste, très impressionnante, dont je suis ultra fan, qui s'appelle Vanessa Wagner. Et c'est vraiment une grande virtuose. Et donc, cette lecture, nous l'avons créée à la Maison de la Poésie en octobre. Elle a beaucoup plu. vraiment beaucoup plu. Et non, mais je dis ça parce que c'est toujours un saut dans le vide, un pari. Donc voilà, cette lecture, je l'ai complètement conçue. C'est moi qui ai fait le choix des extraits, qui ai choisi les musiques, qui ai vraiment fait toute la dramaturgie, etc., presque la mise en scène. Et voilà, j'ai toujours un peu peur quand je monte sur scène pour la première fois avec une nouvelle forme, enfin un nouveau spectacle comme ça. J'ai toujours peur de voir ce que ça va donner.
Voilà. La réception, le public, etc.
Ouais, ça peut ne pas marcher, être ennuyeux, tout ça. Et là, vraiment, et puis sur scène, on a pris vraiment un immense plaisir à faire ça, et donc on est très très heureux de le reprendre. On le reprend dans plusieurs villes, et donc en particulier à Rennes.
Donc un rendez-vous le dimanche 4 février à Rennes avec vous pour la lecture de Sarah Suzanne et l'écrivain.
Voilà, en clôture du festival, et donc en compagnie de Vanessa Wagner et Julia Faure.
Merci infiniment, Eric Heinhardt.
Merci à vous.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Madame, Monsieur, j'ai glissé Madame, Monsieur, j'ai glissé.
Et oui, c'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus et aussi la fin de cette année 2023. Je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, en 2024, des nouvelles aventures autour de cet objet qu'on adore, qui est le livre. En attendant, eh bien, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Profitez bien. Allez, bisous, bye.
Madame, Monsieur, j'ai glissé. Madame, Monsieur, j'ai glissé dans la diagonale, sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé dans la musique d'os des sous, dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup. J'ai glissé dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout. J'ai glissé. Je n'ai plus de paix, de paix, de pays. Me donner du pain, m'en faire don. Fin de ma fin d'animal, fin de maudire les saisons.